Donc Manon, bonjour.
Bonjour Ophélie.
Merci beaucoup de m'inviter chez toi. Donc on est à Montréal, dans le Vieux-Port.
Oui.
Il fait très très beau. Il fait très froid aussi. Pour vous situer, c'est une belle journée hivernale, vraiment québécoise.
Ouais, voilà.
Donc Manon, je suis très contente de t'avoir rencontrée. La première fois qu'on s'est vue, c'était à l'Espace L pour l'inauguration.
C'est clair,
l'ouverture officielle.
C'est vrai.
Puis on a vraiment bien accroché par notre métier.
Ouais.
Où moi je suis dans les médias sociaux, toi aussi tu es dans les médias sociaux, dans le SEO, le marketing digital. Donc on a très bien accroché pour ça.
Ouais.
Puis aussi par le fait qu'on ait vraiment la même vision par rapport à l'entrepreneuriat ou même par rapport au marketing, etc. Donc match retour, la semaine dernière on a fait un podcast, tu m'as interviewé et maintenant c'est à moi de le faire avec Jaco Media. Alors j'ai la première question déjà, j'aimerais que tu te présentes. Donc tu es française aussi, tu es installée à Montréal, ça fait combien de temps que tu es ici?
Ça fait un an et demi que je suis ici. Donc à la base je suis marseillaise, je viens du sud, hein, vous pourrez l'entendre mon petit accent en chantant. J'ai 26 ans et je suis venue ici il y a un an et demi parce que on a eu l'opportunité en fait avec mon copain de venir parce que lui a trouvé un emploi ici, mais ça rentrait un petit peu dans notre projet de longue date de venir vivre à l'étranger en fait, de connaître autre chose. On a toujours vécu dans le sud, donc à Marseille, on avait un petit peu fait le tour de la ville et puis honnêtement d'un point de vue national on va dire, et par conviction on se retrouvait plus du tout dans le dans l'esprit français, dans la mentalité française. Et mon copain qui était déjà venu auparavant à Montréal a eu un vrai coup de cœur pour la ville et il m'a tellement vendu du rêve finalement que je me suis dit j'ai envie d'aller voir. Et je suis venue ici, vivre ici sans avoir visité auparavant
la
ville.
C'est un bon marketeur en fait.
Et finalement j'adore cette ville et on est là.
Ok, donc ça s'est fait comme ça. Et donc en France, est-ce que tu étais déjà dans le digital aussi?
Oui, oui, oui. Okay. Alors je vais te dire un peu mon parcours, peut-être ça t'intéresse. En fait, à la base, moi j'ai toujours rêvé de travailler dans la mode. Donc en fait, j'ai lancé en 2012 un blog en parallèle de mes études dans le commerce. Donc ce blog en fait m'a permis de connaître un petit peu plus l'envers du décor, comment les marques en fait arrivaient à s'approprier le monde digital pour se faire connaître d'une différente manière. C'était aussi l'époque où les magazines et la télévision étaient un peu en déclin au niveau des publicités et donc les marques devaient choisir des alternatives différentes. C'était aussi l'essor des influenceurs, donc de nouvelles stratégies pour faire connaître sa marque différemment, si je puis dire, avec un côté un petit peu plus humain. Donc ça m'a vraiment permis en fait de connaître tout l'envers du décor, comme je le disais, comment dealer sur le web, quelles étaient toutes les possibilités en fait de communication digitale. Et en fait c'était pas du tout prévu, mais ce blog est devenu petit à petit professionnel. Donc j'ai alimenté pendant 6 ans, j'ai réussi à avoir une large communauté. Toujours en parallèle de mes études en fait, parce que je continue mes études. J'ai fait après un master en mode et textile, mais plutôt commercialisation pour en fait, j'avais dans le but de travailler dans la mode, mais plutôt côté digital. Et en fait finalement c'est en 2016 que j'ai lancé mon blog à plein temps, donc ça m'a permis d'avoir vraiment comme une sorte de légitimité auprès des marques, parce que j'avais mon bagage de commerce plus mon expérience dans le digital, et ce qui m'a permis aussi de pouvoir travailler en contrat freelance avec des marques pour développer aussi leur partie digitale en fait. Je faisais finalement les réseaux sociaux pour moi mais aussi pour les autres. Et finalement, en 2018, j'ai décidé d'arrêter la partie blog, parce que par choix personnel et conviction, on va dire, et d'arriver, donc je suis arrivée ici, et j'ai décidé de lancer ma société ici en tant que travailleur autonome, pour l'instant, où j'exerce dans la stratégie digitale, si je puis dire, donc tout ce qui va être en rapport avec les réseaux sociaux, mais aussi... stratégie de contenu, coaching et aussi SEO.
D'accord, donc c'est le package complet. Ouais. Et quel, justement, vu que tu as eu un blog pendant longtemps dans le domaine de la mode, tu as travaillé, tu as été influenceur,
ouais,
quelque part aussi. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un, parce que j'entends beaucoup ça, je l'ai encore entendu tout à l'heure, où on pense que être en ligne, ça rapporte énormément. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer un blog ?
Alors, en toute honnêteté et en toute franchise, je peux dire avec mon expérience que le blog et enfin tous les, comment dire, les préjugés qu'on a sur les influenceurs, c'est totalement faux en fait derrière. Je pense que c'est un marché qui est saturé maintenant à l'heure actuelle et je pense que le modèle va vraiment évoluer. Et si vous voulez en fait vous lancer en tant qu'influenceur maintenant, ça devient de plus en plus difficile parce qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes, donc autant sur YouTube, autant sur Instagram, etc. Et bon, il y a différents algorithmes maintenant qui mettent moins en avant parce que évidemment il y a l'émergence aussi de la publicité, donc les réseaux sociaux doivent aussi bien évidemment alimenter financièrement leur boîte, donc ils vont tout faire pour nous pousser à acheter de la publicité. Donc au final, moi je pense que c'est un modèle économique qui est maintenant plus rentable. Ça demande énormément de travail. Et c'est pas comme quand on se lance en société ou en freelance où on peut avoir facilement des clients et une rentrée d'argent assez rapide, entre guillemets, si on sait comment fonctionner sur le marché. Là par exemple sur YouTube ou même sur Instagram, c'est de plus en plus difficile de percer. Et ça demande souvent beaucoup d'années de travail avant de se verser un salaire décent. Donc quand je parle de salaire décent, c'est minimum d'avoir un salaire minimum, donc 1 500 € par mois par exemple en France. Un peu moins même, le SMIC est à 1 300 € je crois. Donc c'est vrai que c'est difficile de se créer de se créer du revenu, et en plus de ça un revenu
qui est décent en fait.
Oui, hein. Oui, non, mais qui est décent, mais qui est aussi chaque mois en fait, voilà, parce qu'il n'y a pas des opportunités chaque mois, c'est vraiment difficile. Voilà. Okay. Si on n'a pas les contacts et si on veut se lancer de suite pour gagner de l'argent, honnêtement, vous ne lancez pas parce que c'est ça vous plaît.
C'est comme n'importe quel métier finalement, oui. Ça va te prendre beaucoup de pratiques,
oui, c'est ça.
D'étudier, comprendre, travailler,
ouais.
Et un jour, tu auras le salaire qui vient avec.
Ouais, c'est ça.
Mais en fait, ça prend des années.
Ouais, puis c'est les réseaux sociaux, c'est hyper ingrat, quoi. C'est pas parce que tu vas travailler beaucoup, que tu vas te donner à fond, que forcément ton contenu va plaire, en fait.
Mm-hmm.
Je pense qu'il faut que tu arrives à décrypter les tendances, à savoir te les approprier et avoir un petit truc qui fait que tu arrives à attirer ta communauté. Mais c'est une partie de chance aussi, voilà. C'est du travail et une part de chance, je dirais.
Oui. C'est deux facteurs en fait, ouais. Importants. T'as bien raison. Et est-ce que peut-être qu'on a des entrepreneurs qui nous écoutent et qui se disent depuis tout à l'heure, ok, les filles, elles sont en train de parler de marketing digital, de médias sociaux, de blogs, d'influenceurs, d'algorithmes, de ci, de ça. Comment tu décrirais le marketing digital pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de connaissances dans ce domaine ?
Alors en fait, pour moi, le marketing digital, en toute simplicité, c'est le fait de faire connaître une société, une entreprise ou peu importe. Sur internet, donc ça peut englober la partie réseaux sociaux, donc les réseaux sociaux Facebook, Instagram, etc., mais aussi la partie référencement, donc référencement naturel ou payant, donc le fait d'être positionné sur Google sur des places quand vous tapez par exemple Doudou Montréal, j'en sais rien, et le fait d'avoir votre site positionné, ou aussi les publicités sur les réseaux sociaux comme sur Google, parce qu'il y a les deux maintenant. Et voilà, en fait, c'est toute une stratégie pour permettre à votre société de se faire connaître par le biais d'Internet.
Voilà, c'est bien résumé, ouais, en bref.
Ouais.
C'est bon. Et quelle place ça a aujourd'hui, en 2019, pour une entreprise de marketing digital ? C'est quoi sa place aujourd'hui dans une entreprise ?
Ben, je pense que c'est devenu assez charnière dans une stratégie de communication, même de marketing traditionnel, si je puis dire. Les réseaux sociaux et Internet ont une place énorme en fait, on voit de plus en plus de sites qui, enfin même de marques en fait, qui développent leur site e-commerce et qui génèrent énormément d'argent grâce à ce biais, parce que en fait on est une population hyper connectée maintenant, et c'est vrai que si on n'est pas présent sur les réseaux sociaux et sur internet, on va avoir du mal à se faire connaître en toute capacité, si je puis dire. En fait, c'est vraiment tout un potentiel. Il y a le... si je puis dire, il y a le potentiel, on va dire, commercial pur avec les boutiques, etc. Mais il faut prendre en compte la stratégie digitale. Ça me paraît...
C'est évident, obligatoire. C'est comme avoir un service de comptabilité, par exemple.
Oui, c'est ça. Maintenant, c'est ça logique. Paraît, ouais.
T'es obligé,
c'est vrai, par exemple, les bottins, il n'y a plus de bottins à l'heure actuelle, des annuaires comme on avait à l'époque, peut-être de nos grands-parents, etc. Maintenant, c'est tout sur Google, quoi.
Si il y a 20 ans en arrière, t'étais pas dans les pages jaunes, t'existais pas.
Oui, c'est ça.
Par exemple. Mmh. Donc aujourd'hui, si t'es pas sur le web, t'existes pas.
C'est ça, exactement.
Tu seras un fantôme. Mmh. Et donc tu dirais que c'est le marketing digital qui a le plus d'impact sur les ventes d'une entreprise aujourd'hui.
Ben, ça dépend dans quel domaine on est, forcément, c'est sûr, c'est propre à une société, mais en tout cas, ça a toujours un impact sur la visibilité, ça c'est sûr. Mmh.
Et quels sont les bons et les mauvais côtés, par exemple, du marketing digital ? Est-ce qu'il y a des contraintes, par exemple, pour une entreprise ?
Je pense que il y a plutôt des bonnes et des mauvaises pratiques, je dirais, dans le marketing digital. Parce que Internet, c'est hyper vaste et on peut vraiment se créer une communauté assez facilement et surtout lancer un projet, on va dire, à moindre coût. Parce que quand on remet dans le contexte, par exemple, une publicité en magazine, ça compte plusieurs centaines de milliers d'euros parfois. Ou encore, par exemple, créer une boutique, acheter un fonds de commerce, etc. Ça demande beaucoup d'argent, alors que là, un petit créateur peut se développer, on va dire, à moindre coût, un petit e-shop et avoir pas mal de visibilité, quoi, assez facilement, entre guillemets, sans investir beaucoup d'argent. En revanche, les réseaux sociaux, c'est assez contradictoire, parce que à la fois ça va permettre d'avoir de la visibilité, mais à la fois on peut être prisonnier un peu des likes et de tout cet engrenage, en fait, de likes, d'abonnés, etc. Je pense qu'il y en a beaucoup qui font l'erreur, justement, aussi. Il y a de l'achat d'abonnés, etc., pour s'en rendre plus visible. Alors que...
À ne pas faire.
Ouais, c'est ça. C'est... En fait, il faut apprendre à être patient, je pense, sur les réseaux sociaux et savoir tout mettre en priorité, enfin, les choses urgentes à faire en premier. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez développer votre communauté, mais que votre contenu, vous ne l'avez pas étudié au préalable, ça ne sert à rien, en fait. Donc je pense qu'il faut y aller étape par étape et surtout s'enfermer dans une sorte d'engrenage où on essaye d'avoir tout le temps plus d'abonnés, parce que c'est pas vraiment ça qu'on recherche, c'est plus le fait d'engager, en fait, d'avoir un vrai échange avec ses abonnés, sa communauté, qui va nous créer notre cœur de cible et finalement notre clientèle, en fait.
Le but, c'est déjà de s'occuper de ceux qui sont déjà là.
Oui, voilà, c'est ça.
Pas exactement. De s'occuper des futurs, entre guillemets, de chouchouter déjà ceux qui sont présents.
C'est ça, c'est comme dans une boutique, on peut prendre la comparaison, c'est que quand il y a des clients qui sont déjà en boutique, on va essayer de les fidéliser, on va pas essayer d'aller rameuter les gens qui sont loin ou qui passent dans la rue, quoi. On va d'abord s'occuper des gens qui sont dans la boutique. Ben là, c'est pareil, en fait.
C'est la même chose, ils sont déjà rentrés chez toi, t'as une opportunité de pouvoir les convertir. C'est un bel exemple.
Ouais.
Et pourquoi un entrepreneur, par exemple, qui démarre, une start-up, une jeune entreprise, peu importe le domaine, pourquoi un entrepreneur devrait connaître un minimum ce domaine-là ?
Ben, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment devenu hyper important, donc au niveau déjà de la visibilité. C'est super important de créer déjà de comment dire de je perds les mots pardon de conserver son nom, en fait, de prendre son nom déjà et de le mettre sur les réseaux sociaux pour bloquer son nom, voilà, son domaine, etc. C'est hyper important pour la partie marque, en fait,
afficher son identité,
voilà,
en fin de compte.
Ça, exactement. Et en plus de ça, c'est comme on disait, les réseaux sociaux et Internet, c'est devenu incontournable dans une entreprise, donc il faut un minimum de connaissances. Déjà, si vous souhaitez, par exemple, déléguer à quelqu'un et qu'il n'y ait pas d'arnaque, voilà, que vous soyez en mesure de comprendre un petit peu, voilà. Et puis voilà, c'est hyper important pour une société. À l'heure actuelle, c'est devenu incontournable, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, c'est, il faut vraiment le faire, quoi.
Donc ils n'ont pas le choix d'avoir déjà de s'intéresser un minimum au domaine, comprendre comment ça fonctionne. Justement, on va en parler de ça. Comment identifier un vrai marketeur digital d'un faux, par exemple? Parce que justement, si tu t'es formé, première étape, tu t'es un petit peu formé, tu connais un petit peu. Mais maintenant, quelles questions poser à, par exemple, je suis un entrepreneur, je connais un petit peu ça, je sais que j'en ai besoin dans mon entreprise, mais qu'est-ce qui va faire que je vais prendre Richard plutôt que... Je ne sais pas comment elle s'appellerait, comment on l'appellerait.
Je pense que déjà, y a quelques petits points qu'on peut voir. Par exemple, si la personne va te vendre du rêve, par exemple, tu vas avoir 10 000 abonnés en un mois, des choses comme ça. Ça, en fait, à l'heure actuelle, c'est impossible de quantifier combien d'abonnés tu vas avoir, parce que tu ne peux pas forcer les gens à t'abonner. Enfin, ça ne marche pas comme ça, en fait. Donc, y a ça. Puis, c'est pareil sur le SEO, par exemple. Le SEO, on ne peut pas... on ne peut pas savoir exactement quelle place tu vas avoir, on ne peut pas te promettre de résultats, on va dire, quantifiables, mais plus de résultats sur la durée. Donc évidemment, si déjà on voit quelqu'un qui nous vend du rêve comme ça, vaut mieux déjà passer son chemin. Mm-hmm. En général, ça prend beaucoup de temps, mais comme on disait tout à l'heure, ça demande du temps de se créer une identité sur le web, même... sur les réseaux sociaux, et d'autant plus quand on fait une stratégie de référencement naturel, ça prend plus de temps. Bon, je pense que déjà, c'est important de voir un petit peu plusieurs prestataires pour voir ce qu'eux ont à vous proposer en fonction de vos objectifs, parce que chaque stratégie digitale est vraiment sur mesure, en fait, ça dépend vraiment de votre besoin et de votre budget aussi, donc on va s'intéresser notamment à votre corps de métier, savoir qu'est-ce qui serait le plus avantageux pour vous. Donc c'est vraiment de choisir quelqu'un qui comprenne votre métier et puisse vous proposer une stratégie adéquate et qui ne vous vende pas des choses mirobolantes, quoi.
D'accord, donc premièrement, si quelqu'un te promet la lune, fais demi-tour.
Ouais, je pense.
Et puis si en plus il s'est pas intéressé vraiment à ton domaine, il n'a pas pris le temps de s'asseoir 2 heures avec toi, prendre un café pour vraiment bien comprendre en détail tes besoins puis l'identité de ton entreprise, et qu'il a essayé de te vendre ça comme ça vite fait en 5 minutes,
c'est ça.
C'est peut-être pas la bonne personne vers qui aller.
Surtout que oui, si puis aussi il y a le tarif aussi, hein, faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement gonflent un peu les prix. Et c'est vrai que c'est dur de se retrouver, en fait, quand on connaît pas. Donc déjà avoir un minimum de connaissances sur le sujet, demander à quelqu'un qui puisse un petit peu vous renseigner, ou demander à, je sais pas, si vous êtes pas du tout de cette génération, demander à quelqu'un d'un peu plus jeune de pouvoir savoir un petit peu comment marche tout ça, et surtout de faire plusieurs devis pour voir un petit peu ce que ça comprend, quoi.
D'accord, bah ça c'est des bons conseils. Parce que tu l'as sûrement eu aussi cette expérience-là où quelqu'un, une entreprise arrive, fait un peu de la prospection, veut voir tes services et tout ça pour éventuellement t'engager, mais te dit « Ah, oh, mais tel concurrent, lui, il m'a promis ça. » Donc là déjà, ça donne déjà aux gens qui nous écoutent un petit bagage, on va dire, certains petits points à vérifier à chaque fois que vous entrez en contact avec quelqu'un qui est dans le marketing. J'aimerais te poser une question, parce que c'est sûr que tu as vécu les deux côtés. Tu as vécu l'expérience en France et tu as vécu l'expérience au Canada dans le marketing digital. C'est quoi, est-ce qu'il y a vraiment une différence de mentalité dans le marketing digital en France et ici?
Ouais, je pense qu'ici, comme on disait tout à l'heure, il y a une réelle volonté des gens de s'éduquer, en fait, et de comprendre et de maîtriser le marketing digital. Donc, à son niveau, entre guillemets, donc il y a des gens qui vont vouloir maîtriser finalement tout le cheminement donc des réseaux sociaux ou aussi la rédaction de contenu, par exemple, apprendre plein de choses, alors que moi, par exemple, à Marseille, c'est un peu différent encore de Paris, parce que Paris encore, ils sont un peu plus avancés sur nous, mais c'est vrai qu'à Marseille, c'était difficile d'éduquer les gens sur ça, parce qu'ils n'avaient pas spécialement envie d'investir là-dedans, ils ne voyaient pas du tout l'intérêt, en fait. Donc c'était assez frustrant de devoir se justifier sur son travail, qu'il ne faut pas oublier, c'est un travail, c'est un nouveau métier, certes, mais c'est quand même un travail, ça demande beaucoup de temps, comme chaque travail, entre guillemets, c'est pareil, quoi. C'est un vrai métier, et ça, les gens avaient tendance à l'oublier, donc après, ça fait un an et demi que je suis partie, donc je peux pas dire maintenant si c'est encore le cas à l'heure actuelle, mais lorsque j'y étais, c'était difficile, quoi.
C'était plus difficile, donc, de convaincre une entreprise là-bas,
ouais, de convaincre l'utilité de la stratégie marketing digitale à des entreprises commerçants.
D'accord. Et c'est quoi la plus grosse, on va dire, la chose qui a été la plus difficile dans ce domaine-là? Bah, tu parlais de la perception des gens à penser que c'est un hobby, c'est un passe-temps, tu t'amuses et tu fais du bénévolat. Est-ce que c'est quelque chose que t'as souvent fait comme remarque? Est-ce que qu'est-ce qu'on t'a déjà fait comme remarque, par exemple, par rapport à ça?
C'est cool, toi ta vie, tu la passes sur Facebook, quoi. Voilà, tu passes ta vie sur Facebook. Et en plus, tu gagnes mieux que moi. Alors, c'est genre des trucs comme ça.
Oui, alors en fait, les gens pensent que t'es sur Facebook dans ton lit toute la journée en pyjama.
C'est ça. Ouais.
Et que tu gagnes bien ta vie.
Ouais, ouais.
C'est ça, hein, c'est vraiment le cliché, quoi.
Ouais, oui, c'est ça. C'est, en fait, c'est pas dur. C'est à la portée de tout le monde. Alors, certes, c'est parce que c'est des réseaux sociaux, donc c'est fait pour que les gens puissent l'utiliser d'une façon personnelle, mais d'utiliser d'une façon professionnelle, c'est totalement différent, en fait. Et surtout, après, moi, j'ai rencontré en France un petit problème aussi lié à mon âge, parce que je me suis lancée en entreprise, j'étais jeune, je devais avoir une vingtaine d'années. Donc c'est vrai que, bon, déjà, le fait de sortir un petit peu des sentiers battus, si je puis dire, ça surprend toujours. Et donc, j'ai eu pas mal de remarques liées à mon âge, en disant j'étais jeune et que j'inspirais pas confiance, en fait, que je pouvais pas avoir de légitimité dans mon travail, parce que j'avais, aux yeux des gens, pas beaucoup d'expérience, alors que, j'avais déjà 6 ans d'expérience, donc dans le domaine. Donc après, oui, c'est toujours difficile, mais bon, je pars du principe aussi que si les gens me font pas confiance et que j'ai pas forcément envie de travailler avec eux, en fait, c'est une relation de confiance, de mutuelle, en fait. Je pense que c'est hyper important, même en tant qu'entrepreneur, de savoir dire non parfois à des gens qui nous inspirent pas, en fait.
Ouais, ça c'est vrai. Et est-ce que t'as un peu plus de mal avec certaines générations de clients, par exemple, où tu sens qu'il y a beaucoup plus d'éducation à faire et où tu sens qu'il y a vraiment un frein?
Ouais. En fait, en tant que femme, moi j'ai un peu plus du mal avec les hommes un peu plus âgés, qui ont tendance souvent à être un petit peu plus condescendants avec moi. Bon, ça dépend après vraiment, je ne fais pas une généralité, ça dépend vraiment des caractères des gens et puis de la personnalité, mais en général, c'est vrai que quand t'es une fille, que t'es un peu souriante, un peu gentille, il faut toujours un peu faire attention, se mettre comme une sorte de barrière, parce qu'on a tendance à te prendre un petit peu pour une fille trop gentille, on va te demander des choses qui sont pas adéquates on va avoir tendance à prendre le dessus sur toi, donc ça c'est un petit conseil entre entrepreneurs heureux. mais souvent il y a beaucoup de personnes qui sont convaincues de tout savoir et sans s'être intéressées auparavant, donc c'est vrai que c'est difficile à faire avec ces gens-là. En général, je travaille pas avec ce type de personnes-là.
C'est très bien, faut savoir choisir ses clients.
Oui, c'est ça, je pense que c'est super important, même d'un point de vue santé mentale.
Oui, parce qu'au final, déjà, tu dépenses énormément d'énergie, c'est énormément d'énergie mentale lorsque tu travailles sur une stratégie, tu crées du contenu. Si en plus de ça, tu travailles avec une mauvaise personne, ça va te prendre deux fois plus d'énergie.
C'est clair.
Écoute, je suis très contente d'avoir pu discuter avec toi, ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis, c'était important pour moi qu'on puisse démystifier un petit peu le rôle d'une femme entrepreneure qui vient de l'étranger, qui entreprend à Montréal dans le marketing digital. Donc, ça s'adresse autant aux gens qui voudraient se lancer, autant aux gens qui sont entrepreneurs et qui auraient besoin de comprendre un peu plus ce milieu. Alors, je te remercie beaucoup.
Merci à toi.